La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est... Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Salut Pierre-Yves.
Salut.
Alors là, je vous propose à tous les gens qui nous écoutent un programme double. Parce que c'est d'abord la chronique de Pierre-Yves et ensuite c'est la chronique de MC. Mais là, ça va être une chronique à deux chroniques à deux. Alors,
comme le cinépark.
Voilà, exactement.
Un programme double.
Ou dans le baseball, dans le temps. Là.
Appelons ça MC au carré.
Oui, voilà, MC au carré. Et je vous laisse aller sur votre premier sujet. Pierre-Yves, tu veux me parler de ton lave-vaisselle? Et toi, MC, tu veux me parler de ta laveuse à linge, ta lessiveuse?
En commun.
Sous le thème, sous le grand thème du jour, bien sûr, parce qu'il y a une base très sérieuse, c'est la lutte à l'obsolescence prolongée, un projet de loi qui est déposé un projet de loi qui est déposé aujourd'hui à Québec. Et puis, ça vous inspire quelques réflexions.
Ça m'a inspiré. Tu dis, j'ai lu le projet de loi d'un bout à l'autre aujourd'hui. J'ai parlé à la CAQ, on a jasé. Et imagine-toi donc que le projet de loi, c'est pour qu'on arrête de pas pouvoir réparer nos bébelles, qu'on arrête d'acheter des lave-vaisselle et que dans 3 ans plus tard, ben, il soit brisé puis qu'on paye peut-être pas les pièces, mais qu'on paye. Donc là, ce qu'on dit, non, là, ce qui va arriver, c'est que le détaillant et le fabricant seront responsables de nous fournir, en plus de la protection légale, une protection qui nous permet de dire, sur quelques années définies par la loi, pour ce type de bien-là, nous aurons une protection.
Mm-hmm.
Et là, ce que j'ai posé à la CAQ, c'est la question suivante. S'il y a une protection supplémentaire, c'est comme une garantie prolongée intégrée dans le produit. Et donc, le consommateur va payer quelque part, parce qu'il n'y a rien de gratuit. Si on me vend un lave-vaisselle pas cher, en me disant tu peux payer 200 $ de plus ou 100 $ de plus pour qu'il dure plus longtemps, ça veut dire que si jamais on le paye plus, puis qu'ils doivent nous garantir, puis que Johnny qui vient de Repentir jusqu'à Montréal vient de me réparer ça... C'est gratuit.
J'imagine aussi payer. Que tu l'aurais posé la question. Je veux dire, tu sais, on peut pas être contre la tarte aux pommes.
Là, non, on est tous pour la tarte.
On est tous d'accord. Sauf que, est-ce que vraiment, tu sais, on va parler de ma laveuse, que j'ai eu des problèmes, tu as eu des problèmes avec ton lave-vaisselle, mais vous avez tous eu des problèmes avec votre radio, avec votre cossin. Mais je pense pas que la compagnie qui construit son toaster en Chine, aujourd'hui, tremble en se disant, le gouvernement du Québec a fait passer une loi, donc, on va vendre d'autres formes de toaster au Québec parce que ceux-là n'auront pas la chip qui explose juste avant que la garantie.
Ben, disons que laisse faire le toaster, allons-y plus pour un lave-vaisselle. Les gros électros qui coûtent cher, premièrement.
Oui, mais ça changera pas, là.
Non, mais en même temps, donnons-leur le côté que c'est une mouvance sociale internationale où on s'en va vers retourner dans les années 60, finalement. C'est-à-dire avoir des choses qui se réparent, peut-être un petit peu moins design, un petit peu plus optimal sur changer des pièces.
Hey, j'ai un réfrigérateur de 1952 à la campagne qui fonctionne numéro un.
Jamais il consomme plus que ta maison.
Oui, il prend l'électricité. Mais je veux dire, et on m'a dit, quand j'ai acheté justement ma laveuse, mais même chose pour mon réfrigérateur, mon ancienne laveuse, ils m'ont dit, oh mon Dieu, elle a 15 ans. Mais c'est très, très vieux. Alors qu'à l'époque, une laveuse, ça durait 50 ans.
Moi, je me souviens, de tout à coup, quand je me suis installé à Montréal, j'ai acheté un poêle puis un frigo. Mm-hmm. Je les ai gardés pendant 25 ans. Ben, jamais eu un problème.
Écoute,
avec, ben jamais une réparation. Mais
c'est plus possible aujourd'hui.
Écoute, j'ai acheté un ce qu'on appelle un poêle refurbished. En 2003.
C'est un
poêle qui avait été mis en démonstration dans un magasin, qui avait un problème, qui l'avait réparé, qui m'a l'envoyé.
Reconditionné.
Il est encore dans mon logement. Ça fait 20 ans. Il est pareil comme le modèle à peu près qu'on vend maintenant.
Puis est-ce qu'il faut plus d'électricité pour l'alimenter?
Non, le problème, c'est pas ça. C'est plus du genre que quand il y a des pièces électroniques maintenant, c'est tout collé ensemble. Puis ça, c'est vrai. Puis c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, on peut plus rien réparer. Mm-hmm. Quand j'étais jeune, il y avait à Valleyfield, je suis vraiment à Valleyfield encore, on avait Deltronic au coin de la rue. Il te manquait une pièce, t'allais porter cela, il réparait ton jouet, ton toaster. Tout était fait pour être réparé à l'époque. Mm-hmm. Là, maintenant, c'est que le gars va se déplacer. Le gars ou la dame, ça va être 200$ de déplacement. Après ça, c'est 75 à 100$ par demi-heure pour qu'il check ça. Après ça, il va se rendre compte que la pièce, il l'a pas en stock parce qu'ils l'ont jamais en stock.
Si la pièce existe.
Ouais, si la pièce existe, parce que, par exemple, un frigo...
L'avoir dans son camion, ça marche plus.
C'est 10 ans, ça prend 3 semaines à faire venir, 2 semaines à faire venir.
Il va te dire, achète-en un.
Là, il va dire, reviens, il va revenir. Là, tu vas payer 400-500 pour un électro que tu as payé 1000 il y a 5 ans. Puis demander, tu te dis... Je le fais plus. Hein?
Oui,
Et bon, là, je comprends que la loi est là. Le point est qu'on va plus loin que ça ici. On veut que nos iPhones puis que nos Samsung soient branchés avec la même prise. On est d'accord en Europe, ils ont passé ça. On veut que, après 12 réparations, si ton char, un moment donné, Ça se peut que tu puisses te plaindre et dire c'est un citron puis qu'il te remplace ça, qu'il te change ça, qu'il te répare ça, tu comprends? Donc, il y a une loi anti-citron pour les voitures. Mais où le bas blesse, c'est de croire que le consommateur va épargner avec ça. Le consommateur n'épargnera pas. On va avoir une consommation plus durable. On va payer plus les externalités de ce qu'on a à payer, c'est-à-dire le juste prix des réparations d'avance.
Ouais.
Puis, on n'aura peut-être pas des meilleurs produits.
Donc, en fait, quoi? Le prix des produits va augmenter carrément?
Mais regarde, maintenant que tu vends une laveuse 1 500$. Puis que là, on dit, Philippe, s'il achète ta laveuse puis qu'elle pète dans les 5 premières années, tu vas payer le gars puis les pièces. Tu t'attends une minute, là. Combien de Philippe ont acheté des laveuses dans les 10 dernières années? Combien ont pété? C'est quoi notre pourcentage? On va l'appliquer sur tous nos modèles et tous les détaillants devraient faire ça.
Mais de toute façon, on essaie de changer aussi un système qui fonctionne déjà pas. J'ai mon histoire, t'as ton histoire, j'en ai parlé longuement l'année passée. Et je suis pas tout seul, là, j'ai reçu des centaines de messages. Je m'achète une laveuse, je la fais livrer, elle arrive chez nous, elle est neuve. Je la branche, elle ne fonctionne pas. Qui j'appelle? Le magasin qui me l'a vendu, ils me disent, c'est pas mon problème.
C'est dans la garantie du fabricant.
Fait que là, c'est une compagnie, peu importe qui, ça aurait pu être LG, ça aurait pu être Samsung, nommez-les. Bon, j'appelle, ils me transfèrent là-bas. J'appelle aux États-Unis. La madame a 100 sacs aux États-Unis, moi que j'aille acheter une laveuse. Fait que ça me dit en anglais, en plus, faut que tu retournes à ton magasin.
Mon
magasin,
il me dit Samsung.
Non. Il dit non, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Fait que là, tout le monde s'envoie à balle. Hey, je m'en suis pas servi une maudite bâton de foie. Là, fini par convaincre le magasin de m'envoyer un réparateur qui vient, il n'y a pas de morceaux, il revient, ça m'a pris un mois et demi avant d'avoir une laveuse. Là, j'ai eu plein de messages parce qu'on sait bien, là, je fais de la radio, fait qu'il y a du monde qui a essayé d'accélérer la machine, mais c'est pas vrai que je voulais accélérer la machine, je voulais vivre la même chose que tout le monde vit. Okay. Le système actuel ne fonctionne pas. On sait même pas, il y a des lois, l'Office de la protection du consommateur, entre autres, tu nous en parles souvent, Pierre-Yves, mais on respecte même pas ces lois-là.
Bon, j'ai appelé, moi, demandant en Géorgie dans le centre d'appel pour une compagnie. Parce qu'évidemment, il m'appelle. Puis là, j'appelle. Si vous voulez parler en français, faites-le. Tu appelles sur le 1. Et là, il t'envoie dans un État américain où il y a quelqu'un qui parle français. Mm-hmm. Puis là, je dis, vous savez qu'au Québec, on a la garantie légale. C'est la protection du consommateur. Le monsieur dit, je connais les lois, là, au Québec et tout ça, mais ça vaut 200$ de crédit. Fait que c'est ça. C'est ça que ça va être. C'était ça son argument. Il dit, garde.
Fait qu'il te donne un rabais.
Mais c'était pour quelqu'un d'autre, on faisait. Mais il donnait un rabais tout seul, le maximum qu'il va offrir, mais tu sais, il s'en
fout. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on revient à la loi là, qu'ils veulent passer. Qu'est-ce que ça donne qu'on ait des lois?
Ben, tu vas avoir de quoi pour te défendre contre le commerçant. Fait que imagine-toi le petit commerçant, pas le gros distributeur, le petit commerçant de coin de rue, là, qui te vend un appareil comme un ghetto blaster. Lui, il va être responsable en partie de Panasonic à l'autre bout de la planète.
Mais c'est pas un peu excessif de faire porter la responsabilité aux petits commerçants alors que la multinationale derrière, on va dire, ben elle est inatteignable parce qu'elle est située ailleurs qu'au Québec.
Eux, ils disent, l'argument, c'est de dire, si le commerçant accepte de vendre de la crap, il doit prendre responsabilité de la crap.
Comment il sait, Pierre-Yves?
Ben, eux, ils disent, c'est des grands joueurs aussi là-dedans, puis ça va changer, mais
c'est on pire, les gars, et ça, c'est ça qui m'a fasciné. Moi, je pensais, tu sais, Philippe a son droit, là. Fait que je pensais, tu sais, le légal, habituellement, il faut que ce soit le plus clair possible. Faut pas qu'il y ait de flou. Ben, attachez votre truc sur le flou. Un, les compagnies...
Attention, font... les avocats font leur argent avec le flou.
Mais regarde bien. Ils veulent toujours nous vendre une garantie prolongée. Là. Pourquoi? Ça, c'est pour faire de l'argent qu'ils font ça. Prenez pas ça. OK? Ça, ouais. C'est la première affaire. Deuxième affaire, il faut que ta machine vive un certain temps logique. C'est un peu flou, ça. Là. Fait qu'un frigidaire, il dit, ben, mettons, une laveuse, 5-6 ans, faut au moins que ça marche 5-6 ans quand tu l'achètes. Si ta laveuse explose après 3 ans, garantie, pas garantie, techniquement, il devrait t'en donner un autre. Parce que c'est pas supposé que ta laveuse... Mais il y a un flou. C'est combien de temps? Ton auto, c'est combien de temps qu'elle est supposée de rouler?
Ah, puis l'usure, naturellement, l'autre affaire, c'est que le commerçant et le détaillant vont peut-être essayer de dire tu l'as pas usé d'une bonne façon.
Ben
t'as fait plein de gros brassés, t'as 4 enfants, normalement, c'est 2 enfants.
Comme la fureur quand tu passes au feu,
tu l'as trop rempli.
Mais en somme, disons que c'est un premier pas dans la bonne direction, c'est un pas légal, mais bonne chance de te défendre contre une municipalité.
Tout à fait. C'est ce que je crois aussi. Je pense que c'est une excellente conclusion. Pierre-Yves, tu restes là?
Ben oui.
Parce qu'après ça, c'est le grand débat de la journée. Est-ce que les caisses pop sont vraiment une coopérative ou bien c'est plutôt une banque déguisée?
Ouf.
Vous écoutez La Chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Alors, pendant la chronique de Pierre-Yves McSween, hier, un débat a spontanément éclaté entre Pierre-Yves et MC. Et là, les deux sont en studio pour reprendre la conversation là où on l'a laissé, parce qu'on n'avait plus de temps et on est resté sur notre faim. Alors, voici, je situe le débat. Est-ce que les caisses populaires sont véritablement un mouvement coopératif ou plutôt une banque déguisée. Alors, je les laisse débattre. Je serai l'arbitre. Vous avez environ 6 ou 7 minutes. On a choisi une musique thématique pour bien camper l'action. Pierre-Yves, c'est toi qui vas commencer.
Eh bien, premièrement, d'un point de vue légal, oui, commençons
attends,
par le début.
Commence par dire de quel côté tu es.
Moi, je suis évidemment du côté de Desjardins puisque c'est une coopérative. Légalement, de façon factuelle et de façon démocratique. Et la première preuve, c'est que le président du mouvement est davantage un coach qu'un président. Dans une banque, t'as une structure autocratique. Ça part du président, ça descend en bas. Dans une caisse populaire ou chez Desjardins, il y a des conseils d'administration par succursale. Il y a un coach qui essaie de donner une orientation stratégique. Mais ça demeure une démocratie. La parole est à toi.
Écoute, techniquement, oui. Sur papier, l'organigramme, oh là là, c'est différent. Une coopérative d'un côté, et bon. Mais j'y croirais si c'était décentralisé, comme au départ, l'objectif de Alphonse, hein? Alphonse Desjardins.
À l'époque des lampes à l'huile, on se rappelle.
Et on se rappelle pourquoi on a fait ça? Parce que les francophones ne pouvaient pas emprunter d'argent.
Je donne un point à Pierre-Yves pour cette remarque-là. Il mène 1-0 à l'heure actuelle.
Oui, on pouvait pas emprunter, t'as raison.
Les francophones n'avaient pas, écoute, c'est pas rien, il faut qu'on se rappelle.
Mon grand-père fallait qu'il fasse son footing avant d'avoir un prêt.
Donc les francophones
n'avaient
pas
le
droit d'emprunter. Donc on s'est dit, il faut qu'on se fasse un système. Ils ne voulaient pas qu'on ait de banque à charte francophone. Dans les circonstances, on s'est parti d'un mouvement coopératif. Et là, ça, depuis quelques années, ça glisse. Pourquoi? Parce qu'il y a Assurance Desjardins. Parce qu'il y a... qui est une compagnie d'assurance. Parce que quand je vais à ma caisse, ça ressemble de plus en plus à une banque. Oui, je reçois une ristourne sur mon hypothèque.
Parce que t'es membre?
C'est combien je reçois? À peu près 19 et 14.
Tu vas être plus riche.
Donc, est-ce que tu es déjà allé à une assemblée générale de ta caisse populaire? Personne n'y va. Mon père est allé, moi je suis allé. Tout est décidé d'avance. On ose poser des questions. Les gens nous regardent comme si on était des touristes. Techniquement, je suis membre. J'ai mon 5$ là, pour lequel je suis membre d'une coopérative. Mais on ne m'écoute pas. Ils décident. Oui, ils redonnent à la communauté jusqu'à un certain point. Mais va voir en région les espèces de caisses populaires qui se sont construites avec de l'argent que j'aurais bien aimé que ça revienne aux membres. Mais non. Surtout, on pense comme une banque. L'objectif, c'est que les gens empruntent au même taux d'intérêt que dans une banque. Et l'objectif, c'est qu'on soit financé par eux. Et en plus de ça, le petit truc qu'ils ont trouvé, c'est fidéliser nos enfants. Donc, dès qu'on était à la petite école, on ramassait de l'argent à la Caisse populaire. Ce qui fait que, devine quoi, oui, j'ai mes hypothèques à la Caisse populaire. Oui, je suis membre de plusieurs caisses populaires qui sont indépendantes, mais pas vraiment. Mais dans le fond,
ton temps de parole, ce sont des petites banques. Maintenant, Pierre-Yves,
je te pose la question. Tu sais, depuis tantôt, il dit, hey, moi, je suis membre, mais on me traite comme un client de membre. C'est-à-dire, on me donne des services hypothécaires, on me donne des assurances.
Comme si j'étais à Banque Royale.
Ben, c'est ça que tu demandes. T'es dans une institution financière, tu vas avoir des prêts. Fait que si tu veux des prêts.
Coopérative.
Oui, mais coopérative ou non, tu veux des prêts. Alors, là, la banque, elle te dit, j'ai des actionnaires et des passifs, des actifs. La caisse te dit, nous n'avons pas d'actionnaires.
Ben oui,
nous n'avons que des membres.
Ce serait nous.
Et les membres ne lèvent pas de capital. Les membres, il y a leur part sociale. On pourrait leur demander une part spéciale. Mais en somme, on génère des surplus pour générer des ratios de capital parce que là, ils sont exposés aux mêmes règles de risque systémique selon l'accord de Bâle. OK? Et donc, ils sont obligés.
Donc, tu me dis qu'on respecte les mêmes normes qu'une banque.
Ils sont obligés, sur certaines affaires, de respecter certains ratios de capital.
Pour protéger le public.
Imagine-toi donc au Canada. T'as-tu remarqué que pendant la crise financière, on n'a pas paniqué, nous autres au Canada? Pourquoi? Parce que nos institutions financières, coopératives ou banques, sont bien capitalisées et respectent des ratios de capital.
Mais le débat n'est pas là.
Oui, c'est là.
C'est quoi la différence?
Ben, OK, c'est comme si tu me dis, un cowboy, c'est comme un acteur. Les deux, ils portent des chapeaux. Mais là, OK, les deux portent des chapeaux, mais c'est pas la même chose dans la structure.
Quelle est la différence?
La différence, c'est que toi, comme membre, tu peux te présenter au conseil d'administration, te faire élire, puis devenir président toi-même de ta caisse en te faisant élire. Tu peux devenir président à
mais
place.
Mais Pierre-Yves, ça arrivera pas, là.
Excuse-moi, il peut mener campagne, ça peut arriver. Deuxième chose, c'est sûr qu'MC a la tête du mouvement. Ça arrivera pas.
Merci, Philippe.
Deuxième chose, l'autre affaire qui est très importante, l'autre affaire, c'est qu'ils peuvent pas t'offrir des taux inférieurs tant que ça pour la raison suivante, c'est qu'il faut que la caisse, il faut qu'elle se finance aussi. Elle a un passif, il faut qu'elle fasse un profit pour pouvoir augmenter son capital, pour te permettre de te reprêter à toi-même, MC, qui aura des bénéfices de membres. Et, attends une minute, il n'y a pas une banque qui redonne à sa communauté comme Desjardins, parce que Desjardins, c'est pas juste des ristournes qui donnent, c'est des prêts, des noms, des activités parascolaires, des commandites, des bourses.
Là-dessus, je te donne un peu, mais le débat part d'où? Il part d'hier. Pourquoi il est parti? C'était l'histoire du livret.
C'est les dernières à abandonner le livret parce que c'est une coopérative.
Et il y a eu tous les débats à savoir justement, est-ce qu'on donne du service? Et moi, quand il prend une décision comme ça, on donne du service aux plus démunis, ce qui est l'objectif d'une coopérative.
Non, c'est l'objectif d'un organisme à but non lucratif. Une coopérative, le but, c'est de mieux servir ses membres en totalité.
Ses membres, oui.
Moi, je suis un membre, t'es un membre, mais on est tous les membres. Disons.
Pourquoi je suis...
Moi, je suis pas membre.
Pourquoi je suis membre? Ben, c'est ça qui est absurde. Oui. Moi, je suis membre de Desjardins. Pourquoi je suis membre de Desjardins? C'est que je veux qu'ils aient un cœur. Je veux qu'ils réfléchissent à leurs membres, je viens de l'utiliser, et non pas leurs clients. Deux mots qui sont très différents.
Mais les membres sont clients.
Est-ce qu'ils devraient, par exemple, charger un taux d'intérêt moins cher sur ton hypothèque parce que t'es membre? Est-ce que c'est à ce à quoi tu t'attends?
On reparle de la communauté, ça j'aime. Mais l'occupation du territoire, qu'on cesse de faire des fusions de caisse en caisse et qu'on laisse les services dans les régions, village par village. Attends. Et les guichets automatiques, mettez-en le plus que vous pouvez partout, donner du service à vos membres.
OK, mais d'accord, mais tes membres, dans leur intérêt, c'est d'avoir un peu moins de services régionaux puis un peu plus de concentration parce que tu dois demeurer compétitif pour être capable de leur offrir des services. Tu sens mélanger... Non, tu sens mélanger la Saint-Vincent-de-Paul, Moisson-Sud-Ouest puis Desjardins.
Non, non, non.
Desjardins, c'est une coopérative.
Il faut qu'elle ait plus de cœur.
À but lucratif.
Évidemment.
Dans le but d'aider ses membres à performer dans le système économique dans lequel on vit.
Ouais.
Si t'as un guichet qui te coûte trop cher, faut que tu charges plus de frais à tes membres, est-ce que tu travailles vraiment pour tes membres?
Mais si tu commences, t'es un jeune, tu commences tu veux partir une petite entreprise, par exemple, une start-up, pour utiliser les expressions, et t'as pas d'actifs en balance, ben, tu vas voir une banque, ils vont te dire non. Mais dans l'esprit de la Caisse populaire, dis, écoute, je vais encourager ces jeunes-là, ils sont Québécois, on va encourager ici. Là, tu vas me dire ça, c'est le job d'Investissement Québec. Ouais, OK. Mais la Caisse aussi.
À la Caisse, il faut penser avec son membre et avec sa tête.
Avec son membre?
Oui, son membre.
Ouf. L'avertissement sonore.
Une chance que c'est fini.
A maintenant été entendu. Je vous remercie pour ce magnifique débat. Je déclare un match nul de 2-2. Les deux ont marqué des points.
Ce qui est absurde, Philippe, c'est que je suis membre de Desjardins et pas lui. Tout ça est surréaliste.
Absolument incroyable. Mais c'était quand même super intéressant de vous entendre. Pierre-Yves, merci. Merci d'être venu. MC, tu restes là. Et puis, Valérie Leboeuf est avec nous dans un instant.
On se part une coop, Phil.
C'est